Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. La mondialisation telle qu'elle est effective aujourd'hui est-elle inéluctable? Peut-on envisager une mondialisation autrement, sans ses affres, sans ses inégalités? Comment la France et l'Europe peuvent-ils composer avec la mondialisation, en tirer bénéfice et pourquoi pas écrire une histoire de la mondialisation qui leur ressemble? Pour répondre à ces questions, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir deux éminents économistes et acteurs du système économique. Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, bonjour.
Bonjour.
Et Jacques Delarosière, conseiller à BNP Paribas, ancien directeur du FMI, à ce titre acteur direct de la mondialisation et membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Bonjour.
Bonjour monsieur Delarosière. Commençons par circonscrire cet animal politique qu'est la mondialisation et peut-être par faire un petit rappel historique et ensuite dans un deuxième temps nous mesurons les conséquences en France et en Europe, nous en tirerons les leçons. Nous avons l'habitude de dater la mondialisation au mieux au milieu du 19e siècle et d'établir les dates 1914-1989 comme une grande parenthèse, comme dirait Jean Béchler. Est-ce que c'est un phénomène unique dans l'histoire, monsieur Delarosière?
Non, il y a eu des phases plus anciennes, mais je crois que la plus intéressante, c'est quand même celle qui sépare les années 1850 de la guerre de 14, parce que la mondialisation comportait un certain nombre de traits qui caractérisent celle d'aujourd'hui. Et il y avait une grande mobilité des capitaux, des hommes, et de très grandes migrations, notamment vers les États-Unis. Il y avait une très grande ouverture au commerce international. Et en plus, il y avait une chose que nous n'avons pas, c'est qu'il y avait un système monétaire global, c'était l'étalon or. Et ce système a duré pendant plus de 60 ans et il s'est effondré au moment de la guerre de 14, pas tellement pour des raisons techniques, mais plutôt parce que le monde avait changé, la politique de la mondialisation avait changé, de grandes firmes s'étaient constituées, alors qu'au 19e siècle, c'était plutôt une atomisation des entreprises. Donc il y avait un pouvoir oligopolistique, comme on dit, pour la formation des prix. Et le mécanisme fondamental de l'ancienne mondialisation, c'était que les prix baissaient lorsque la compétition l'exigeait, et les salaires aussi. Et quand on a eu, après la guerre de 14, c'est à peu près à ce moment-là que les choses se sont modifiées, quand on a eu de plus grosses entreprises qui étaient en fait déterminantes dans la fixation des prix, quand on a eu des syndicats beaucoup plus puissants, qui étaient des déterminants aussi dans la fixation des salaires et dans la défense des droits des travailleurs, le système ancien de la mondialisation s'est grippé. Et comme la guerre de 14 est arrivée, qu'il y a eu de grands bouleversements politiques, on a essayé de recoller les morceaux. Après la guerre de 14, il y a eu beaucoup d'essais pour recréer un système économique intégré mondial. Et tous ces essais ont échoué pour des raisons, au fond, assez profondes. Et c'est lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée qu'on a reconstruit un système dit de Bretton Woods qui était beaucoup moins poussé, beaucoup moins capitalistique que l'ancien, mais qui recréait certains éléments de la libéralisation du commerce. Mais la mondialisation d'aujourd'hui, et je crois que c'est ça dont M. Barrot va parler, est d'une ampleur et d'une nature assez spécifique.
Est-ce que, M. Barrot, la mondialisation 1850-1914 n'était-elle pas une mondialisation qui partait de l'Europe, alors que la mondialisation d'aujourd'hui dépasse largement l'Europe?
Oui, mais le président Delarosière vient bien d'expliquer tout de même que c'est une mondialisation qui a eu lieu, qui s'est arrêtée avec la guerre de 14, mais qui existait.
Et avec la
mais
crise
aujourd'hui,
de 1929.
Ce qui change beaucoup, c'est la rapidité avec laquelle se fait cette mondialisation, précisément grâce à une extrême diffusion, d'une rapidité extraordinaire de toutes les innovations, de toutes les idées. Ça, c'est Internet, c'est évidemment un outil extraordinaire. Et en outre, cette mobilité qui évidemment accélère la mondialisation et tout à fait dispose de moyens absolument formidables par rapport à ce que étaient les moyens il y a un siècle. C'est ainsi, par exemple, que le transport maritime, aujourd'hui, progresse à grande vitesse avec des grands bateaux qui peuvent contenir jusqu'à 12 000 containers. Et que c'est ainsi que le coût du transport des marchandises, finalement, devient dans le coût du produit une part très minime. Ce qui explique évidemment un développement sans précédent des échanges, et pas seulement des échanges financiers, mais des échanges de produits, ce qui évidemment amène dans ce monde en changement une division du travail qui est très difficile à appréhender. Et c'est là en effet que nous sommes affrontés, nous Européens, à un monde auquel il faut vraiment, d'une manière ou d'une autre, nous nous adaptions. Il faut bien comprendre ce monde. Et tout ce qui était hier un certain nombre de barrières physiques, hein, à travers le transport aérien, le transport maritime, tout ça, aujourd'hui, est pratiquement en passe de ne plus être un problème. Donc il faut voir comment cette division internationale du travail va peu à peu émerger, avec aujourd'hui, bien sûr, une concurrence très vive des pays émergents qui ont très envie de faire leur place au soleil.
Alors, Monsieur Barou, nous allons y revenir un peu plus tard. Pour terminer ce parallèle, Monsieur Larosière, entre cette première mondialisation et puis la mondialisation que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette première mondialisation et particulièrement des leçons à tirer de ce qui s'est passé dans les années 30? On se souvient de ce repli protectionniste qui a concerné l'Angleterre, qui a concerné la France, le Japon, l'Allemagne et qui a donné lieu à la Seconde Guerre mondiale. Quel parallèle pouvons-nous faire avec aujourd'hui?
Oui, mais vous avez tout à fait raison de poser cette question. La leçon qu'il faut tirer des événements qui ont suivi la guerre de 14, elle est très simple. Le compartimentage du monde qu'on a connu à cette époque-là, dans les années 20 et les années 30, a été un des grands facteurs de la guerre. Et ça a été un facteur de réduction des standards de vie. Parce que si vous vous repliez sur vous-même et que vous n'acceptez pas l'arrivée de produits étrangers, mais d'un certain point de vue, vous paralysez aussi vos propres exportations à plus haute technologie. Si vous faites ça, vous réduisez automatiquement le niveau de vie et donc vous créez des occasions de tensions considérables. Et là, je crois qu'il y a une leçon à tirer, qui a d'ailleurs été tirée par ceux qui ont fait les organismes de Bretton Woods et le GATT au lendemain de la guerre, c'est surtout ne recommençons pas cette aventure de l'isolement commercial et économique, ces barrières.
Même si c'était sur des empires, hein, donc oui, c'était quand même des zones économiques assez larges.
Oui, mais vous savez, ce qui s'est passé dans les années 20 et 30, c'est exactement ce qu'on doit éviter. Chaque pays essayait de faire des dévaluations compétitives. Qu'est-ce que c'est une dévaluation compétitive? C'est tirer avantage de son taux de change pour exporter à bas prix, et en exportant à bas prix à l'extérieur, soutenir sa main-d'œuvre. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, et c'est ça, à mon avis, une des faiblesses de la mondialisation d'aujourd'hui, qui, de ce point de vue, requiert plus de gouvernance, une des faiblesses, c'est qu'il n'y a plus de véritable gouvernance des taux de change, comme il y en avait une au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec Bretton Woods, et comme il y en avait une au XIXe siècle avec l'étalon or. Maintenant, on peut jouer sur sa monnaie. Quand on a des excédents, on achète du dollar pour éviter à sa propre monnaie de s'apprécier.
Et la Chine connaît ça.
Et oui. Et ce faisant, on promeut les exportations. Et donc, moi, je pense que, un, il ne faut pas tomber dans l'erreur protectionniste, parce qu'elle est handicapante. Deuxièmement, il faut améliorer, et là, il me semble que M. Barrot a beaucoup de choses qu'il pourrait nous dire, il faut améliorer la gouvernance internationale, celle des organismes ou des institutions qui ont été créées pour ça, c'est-à-dire, bah, d'une part, le GATT et son successeur.
L'OMC.
Exactement, l'OMC, qui doivent faire leur travail de police en matière d'échanges internationaux et d'échanges maîtrisés et dans un système qui est discipliné. Il y a le Fonds monétaire international qui, je le regrette, ne peut plus aujourd'hui ou ne fait plus aujourd'hui son travail de surveillance multilatérale des taux de change. Et puis, il y a ces rapports entre Bruxelles, qui est d'un certain point de vue exemplaire en matière d'ouverture du commerce. L'Europe s'est totalement ouverte à elle-même et elle s'est beaucoup ouverte sur l'extérieur, mais il reste si vous voulez, à protéger la propriété intellectuelle, la moralité du fonctionnement du système. Ne pas faire travailler des enfants ou des prisonniers dans des conditions qui soient inacceptables. Et donc il y a toute une série de gouvernances. Et, comme le disait M. Barrot, il faut agir en Europe pour améliorer la connaissance technologique, l'innovation, l'éducation. C'est par là que l'Europe pourra bénéficier, comme vous le disiez, non pas être pénalisée par, mais bénéficier de la mondialisation.
Monsieur le Président Barrot, vous êtes donc vice-président de la Commission européenne et à ce titre, vous êtes bien placé pour parler de l'Europe, de cette Europe dont on se demande à quel point est-ce qu'elle bénéficie ou non de la mondialisation. Est-ce que vous voyez l'Europe comme un premier échelon de la mondialisation, une sorte de moteur de dynamisme pour les entreprises qui sont stimulées à une échelle moyenne pour être ensuite mieux préparées à affronter le marché global? Est-ce que vous voyez ça au contraire comme un marché que l'on devrait un protéger, sans parler de protectionnisme, on en parlera, qui permet d'être à une échelle intermédiaire?
Que l'Europe bénéficie de la mondialisation, c'est évident. Nous avons là, pour l'industrie européenne, un marché unique intérieur qui est une base arrière formidable pour développer des produits qui peuvent ensuite être exportables dans le monde. Et s'il y a bien un point d'accord avec le président de la Rosière, c'est que, attention à ce que sous l'influence de certaines peurs, il n'y ait pas, vis-à-vis de la mondialisation, un réflexe de peur et de protectionnisme. Car là, on perdrait alors pour l'Europe toutes les chances que peut constituer la mondialisation. Alors, cela étant, j'ai bien sûr moi aussi beaucoup apprécié ce que vient de dire M. de la Rosière sur la gouvernance mondiale. Car cette mondialisation, il faut qu'elle soit peu à peu, qu'elle se... le jeu soit vraiment selon des règles qui évitent des concurrences manifestement non conformes à l'équité. Et à cet égard, les taux de change, c'est un vrai problème. Mais contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas à la Banque Centrale Européenne d'en décider. C'est en fait précisément cette gouvernance mondiale dont nous avons besoin aujourd'hui et qu'il faut recréer.
Qu'il faut recréer, parce qu'elle ne marche pas.
Puisque, comme le disait M. de la Rosière, elle a existé d'une certaine manière avec les talons or et avec Bretton Woods. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Donc, c'est-à-dire que l'OMC, pour vous, n'a pas de moyens suffisants.
L'OMC joue son rôle, mais il faut d'abord, bien sûr, que la négociation en cours aboutisse. Et pour le moment, rien n'est gagné.
Le cycle de Doha.
Il n'y a pas seulement des tentations protectionnistes du côté d'Europe, de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Bon, espérons que cette nouvelle ouverture des marchés va se produire. Espérons aussi que peu à peu, sur les taux de change, on ira vers un peu plus de sagesse, parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est très difficile d'expliquer à un producteur européen que la monnaie chinoise est extrêmement sous-évaluée et que par conséquent, ça lui pose beaucoup de problèmes. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que dans l'OMC, il y ait toujours ce désir de pousser plus loin la réciprocité. Il ne faut pas faire de la préférence européenne une nouvelle ligne Maginot, mais il faut exiger la réciprocité dans les accords. Et ça, je crois que l'Union européenne est bien partie dans ce sens. Alors, il reste ensuite à armer, si je puis dire, nos concitoyens pour qu'ils n'aient pas peur de la mondialisation. Alors là, nous retrouvons cette formation tout au cours de la vie, cette capacité d'adapter les gens à de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles productions. Ça, c'est indispensable, parce que, comme je disais tout à l'heure, cette mondialisation bouscule la division traditionnelle du travail. Et c'est vrai qu'il faut essayer de repenser un petit peu le rôle des Européens dans la mondialisation. Je visitais il y a quelques jours une magnifique entreprise de jouets à Saragosse, en Espagne. Eh bien, elle s'appelle Imaginarium. Eh bien, ils se sont vraiment concentrés sur la conception du jouet, et puis font réaliser le jouet dans toutes les parties du monde. Mais là, ils ont trouvé le credo qu'ils pouvaient occuper. Alors je crois qu'il faut vraiment dissiper les peurs, il faut arriver à armer nos citoyens, et puis il faut aussi, c'est important, amortir des chocs trop brutaux. C'est pour ça qu'on a créé un fonds d'adaptation à la mondialisation pour le cas où il y a brutalement la fermeture de quelques unités qui employaient de nombreux salariés européens, pour que on puisse au moins mettre à leur disposition des moyens de réadaptation. Alors voilà un peu comment peut s'ordonner une stratégie européenne face à la mondialisation. Mais il faut quand même le répéter, la mondialisation est d'abord un accélérateur de chance avant d'être la source de toutes les peurs et toutes les angoisses. Et ça, dans le débat français, il y a encore beaucoup à changer. Et une parole vraie serait la bienvenue pour aider les Français à se préparer eux aussi à la mondialisation. Ils ont montré dans le passé qu'ils étaient capables, mais encore faut-il leur expliquer ce qui se passe et puis leur dire « n'ayez pas peur, mais prenez vos dispositions pour être à la mesure des changements du monde ».
Le débat est donc ouvert. Je vous remercie, Monsieur Jacques Barrot, Monsieur de la Rosière, pour cette intervention sur la mondialisation. Bonne journée.
Merci.
Merci bien.